France Culture.
Il y a les chiffres d'abord, froids, généraux, nécessaires aussi. 4,1 dans notre pays, 4,1 bébés sur 1000 meurent au cours de la première année de leur vie. Au niveau européen, la France se place ainsi à la 23e place sur les 27 États membres. Mais derrière cela, derrière les statistiques, il y a aussi le réel. Nous avons tous des proches qui ont été touchés par la mort de leur très très jeune enfant. Dans l'équipe même de Questions du Soir, l'une de nos collègues et amies a connu avec son conjoint un tel drame il y a quelques semaines. C'est pourquoi nous avons, grâce à elle, décidé de nous intéresser collectivement à ce sujet majeur, sujet méconnu. Alors comment expliquer la mortalité infantile en France, singularité alarmante de notre pays? Comment améliorer la santé périnatale? Pour tenter d'en le comprendre, pour tenter d'en discuter aussi, trois invités ce soir. Sébastien Lorquin, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes journaliste d'investigation, co-auteur avec Anthony Cortès de cet ouvrage intitulé 4,1, le scandale des accouchements en France, un ouvrage qui est apparu il y a 4 jours aux éditions Buchet-Chastel. Face à vous, le docteur François Goffinet, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes gynécologue-obstétricien, vous êtes chercheur en épidémiologie périnatale et chef de service à la maternité Port-Royal. Face à vous, Lucille Abiola, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes sage-femme clinicienne en psychiatrie périnatale au CHU d'Angers. Vous êtes également doctorante en éthique. Vous travaillez sur le vécu des femmes de la naissance, sur le consentement et sur la relation dans le soin. Merci beaucoup à tous les trois d'être présents ce soir dans Questions du Soir.
Elle est arrivée ici vers 1h du matin. Et c'était une nuit, c'était le rush, pas possible. Les sages-femmes étaient complètement sous l'eau. Et elle m'avait dit que vous n'avez pas beaucoup de temps, voilà, parce que c'était très compliqué. Je vais dire, je veux juste entendre le cœur qui bat. Et après, je rentre chez moi, c'est pas grave. Je veux juste m'assurer que son cœur bat. Et elle a mis la sonde. Et elle n'a pas entendu le cœur. Et là, j'ai compris. Et j'ai vu dans son regard. Elle m'a dit, je vais chercher le médecin. Je sais pas faire. Vous savez, je suis une jeune sage-femme. Je sais pas. Et elle est partie courir chercher le médecin et... Là, j'ai eu un cri animal.
Extrait d'un court-métrage documentaire signé Eugénie Zvonkin intitulé Le sentier des absents. Et on va évidemment dans cette émission parler de chiffres, de statistiques, de disparités, d'organisation territoriale des soins, de tous ces déterminants qui font cette singularité française. Mais comme vous l'écrivez, Sébastien Lorquin, les sujets liés à la mortalité infantile, ce sont derrière des vies d'enfants, de parents, des familles entières, de soignants aussi qui sont confrontés à cette dégradation dramatique. Comment est-ce qu'on relate ça en tant que journaliste lorsqu'on enquête, comme vous l'avez fait des mois durant, sur ce sujet difficile, douloureux pour énormément de monde?
Alors avec notre enquête, ce qu'on a vraiment voulu faire, c'était, comme vous le disiez, c'est mettre de l'humain derrière ce chiffre de 4,1 qui est un chiffre froid, qui émane d'un rapport statistique de l'INSEE. Et ce qu'on a voulu montrer, c'est l'ampleur qu'il cache quelque part, ce 4,1. On parle d'environ 2800 bébés chaque année qui perdent la vie avant leur premier anniversaire. On parle donc de 2800 familles frappées par le deuil, de frères, de sœurs, de parents qui se retrouvent dans une famille dévastée. Et finalement, ce qu'on a voulu faire avec notre enquête, c'est aller partout en France, montrer l'ampleur de ce qui se joue. Et finalement, avec pudeur et avec délicatesse le plus possible, montrer finalement en mettant des mots sur ces situations.
Lucille Abiola, je l'ai dit, vous êtes sage-femme. Qui annonce à des parents qu'ils viennent tout juste de perdre leur enfant qui vient de naître ou qui est né il y a quelques jours seulement ?
Bien, ça dépend un petit peu du contexte. Si le décès est constaté dès l'arrivée de la maternité, les sages-femmes sont tout à fait en mesure de l'annoncer. Bien sûr, derrière, toute une équipe médicale doit être contactée pour prendre en charge cette patiente et cette famille. Quand c'est après la naissance, c'est soit les pédiatres, soit les sages-femmes. Les gynécologues, souvent, sont plutôt auprès de la mère.
Dans les semaines qui suivent, les parents, notamment l'entourage de ces enfants, sont accompagnés de quelle façon ?
Alors, chez nous, à Angers, les familles, quand les enfants sont allés en néonat, sont accompagnés par les pédiatres et les infirmières de néonat. On a aussi une équipe spécialisée dans le deuil pour les enfants. Et nous, les femmes, sont accompagnées dans le cadre du deuil périnatal par notre équipe de psychiatrie périnatale, où on a fait le choix depuis 2 ans de rappeler en systématique toutes les femmes qui perdent leur enfant à la naissance ou dans le postpartum immédiat.
On reviendra sur ce sujet, notamment sur l'accompagnement des parents. François Goffinet, en tant que professionnel de santé, en tant que médecin en l'occurrence, comment vous vivez cela? Comment est-ce que vous êtes frappé vous-même par de tels drames humains?
Oui, c'est toujours bien sûr un drame d'abord pour le couple, la famille. Alors bien sûr, dans une moindre mesure, mais il faut, si je peux me permettre de le dire, même si ça peut paraître peut-être impudique hein, pour les familles qui ont perdu un enfant, c'est également un drame pour les soignants. Et on voit dans votre reportage qui colle complètement à ce que l'on vit. On voit très bien comment dans ce reportage la soignante est complètement alors qu'elle, même si elle est jeune, elle sait que ça peut arriver, elle connaît, elle est complètement désarçonnée par ce décès in utero qui ne fait pas partie de la mortalité infantile, même si je sais que vous voulez mettre d'abord de l'humain avant de commencer à donner des définitions, et c'est, on en reparlera tout à l'heure.
Donnez-nous quand même justement la définition de cette expression mortalité infantile. Ouais. Qu'est-ce qu'on la mortalité met derrière
infantile,
très concrètement?
Ouais, c'est le décès de l'enfant entre sa naissance, alors qu'il est vivant, et sa première année de vie. Et la grande majorité de cette mortalité infantile, en fait, c'est de la mortalité, ce qu'on appelle néonatale, dans la première semaine ou le premier mois. Et donc, ça veut dire que c'est des événements autour de la naissance, en fait. Et donc, c'est pour ça que c'est très important de comprendre que, pour essayer d'améliorer les choses, il n'y a pas que ça, mais il faut améliorer la sécurité autour de la naissance. Et la mortinatalité, qui, on pourrait penser d'ailleurs en France que comme la mortalité infantile est très élevée par rapport à d'autres pays, on se dit, ah ben du coup, peut-être que on a mis tellement de moyens pour pouvoir diminuer la mortinatalité, c'est-à-dire que les pertes d'enfants in utero, qu'il y a un basculement vers la mortalité natale, pas du tout. On est très mauvais également en mortinatalité. Donc il y a ce continuum fait que la France est très médiocre, mauvaise, on peut le dire, aussi bien pour la mortinatalité, l'exemple de votre reportage, que le décès des enfants après la naissance.
La voix du docteur Philippe Juvin, professeur de médecine, médecin, anesthésiste, réanimateur. Il est par ailleurs élu Les Républicains. Il s'est saisi lui aussi de ce sujet.
La mortalité infantile, c'est la mortalité entre le jour de la naissance et le premier anniversaire. Elle a baissé jusqu'en 2012, partout en Europe, y compris en France. Elle continue à baisser en Europe, mais elle remonte en France depuis 2012. Donc, le surplus par rapport à nos voisins de mortalité des enfants de moins d'un an, ça correspond à l'équivalent de 1200 enfants, 48 classes de maternelle qui meurent tous les ans en France, qui ne devraient pas mourir.
Des chiffres absolument effarants. Sébastien Lurquin, je cite un extrait de la conclusion de votre ouvrage. Si l'on superpose la natalité en baisse flagrante et notre taux de mortalité en hausse, la réalité est plus qu'alarmante. Nous faisons face à un baby crash. Quel avenir attend ce pays si ces bébés naissent moins et meurent plus? C'est quoi ce baby crash? Qu'est-ce que vous mettez là aussi derrière cette expression?
Nous, ce qui nous a quand même sidéré au cours de notre enquête, c'est qu'on a constaté la dégradation. L'extrait que vous venez de passer le montre bien. Depuis 2012, en fait, il y a une stagnation avec des hauts et des bas. Mais depuis 2020, ce qu'on voit, c'est une véritable augmentation de la mortalité infantile. On était à 3,5 pour 1000, on est passé à 3,6, 3,9, 4,1 en 2024. Donc, c'est aussi la question qu'on pose dans ce livre, c'est mais quel taux attend-on pour agir? Enfin, On l'a bien compris depuis le début de nos échanges. Il y a de véritables drames qui se jouent derrière toutes ces situations. Il est urgent finalement. Alors est-ce que c'est un devoir politique? Est-ce que c'est un devoir moral? Mais il est urgent de mettre sur la table le débat autour des solutions nécessaires à apporter dans les délais rapides. Parce que cette hausse, elle se poursuit. Et qu'est-ce qu'on attend pour l'entraver?
On va revenir sur, évidemment, tenter de répondre à cette question, que faire, mais Lucie Labiola, cela vient d'être dit, un temps, cette mortalité infantile a largement réduit. Si je reprends par exemple les chiffres des années 90, alors qu'en 1994, la mortalité infantile était de 6 pour 1000, elle était descendue en 2011 à 3,5, elle est aujourd'hui à 4,2. Comment est-ce qu'on l'explique concrètement? Quels en sont les facteurs?
Je pense que c'est multifactoriel, c'est-à-dire que, par exemple, ce qui encadre notre pratique, ce sont les décrets de périnatalité qui datent de 1998, qui n'ont jamais été revus. Ces décrets encadrent la manière dont on doit travailler, le fonctionnement de nos maternités et le ratio de personnel par rapport au nombre de naissances. Ça n'a pas été revu depuis 1998, alors que nos pratiques, par contre, ont été revues avec de nouvelles recommandations via l'HAS.
La HAS, c'est la Haute Autorité de Santé.
santé.
Tout à fait, c'est ça. Notamment pour l'accompagnement des accouchements physiologiques sur les césariennes également. Et donc nos pratiques ont évolué, mais nos conditions d'accueil en termes de personnel et d'organisation n'ont pas évolué.
Si vous nous donnez un exemple là aussi concret, un hiatus entre, j'allais dire justement, ces décrets parus il y a plusieurs décennies et le quotidien de vos pratiques, qu'est-ce que vous pourriez donner comme illustration ?
Comme illustration, par exemple, c'est avoir une seule sage-femme dans une maternité de type 1 en salle d'accouchement, sans astreinte. Donc, elle est seule sur place avec un anesthésiste et un gynécologue d'astreinte qui ne sont pas non plus sur place. Donc, elle est seule. S'il y a une fluctuation de l'activité, puisqu'on essaye de respecter la physiologie, donc sans déclencher les accouchements et sans programmer notre activité, eh bien, il peut y avoir 4 accouchements dans la nuit avec une seule sage-femme. Donc, elle doit rationaliser ses soins et faire des choix dans les soins qu'elle offre aux patientes.
Les maternités de type 1, on rappelle que ce sont les maternités qui permettent aux femmes d'accoucher lorsqu'il y a un degré de sécurité qui est maximal, en tout cas pour leur enfant, c'est bien ça ?
Alors, le type 1, c'est les maternités qui accueillent les grossesses les plus physiologiques.
Enfin, je veux dire en tout cas que les enfants sont a priori en bonne santé, non ?
Voilà, c'est ça. Les enfants sont a priori en bonne santé et les mamans aussi.
Docteur François Goffinet, est-ce que pour vous, là aussi, ces décrets, c'est le cœur du problème aujourd'hui ? Ou quand on dit multifactoriel, vous en auriez choisi peut-être un autre pour tenter d'expliquer cette anomalie française ?
Je pense que c'est... Essayons d'être concrets pour que les auditeurs comprennent. Par exemple, si je me place du côté d'une maternité, comment est-ce qu'une maternité, une équipe, va pouvoir diminuer les risques et entre guillemets, avoir le moins de pertes d'enfants en mortinatalité ou mortalité néonatale pour faire face à des patientes à risque ou des patientes qui ne sont pas à risque. Ben, cette équipe, il va falloir qu'elle soit relativement solide et pérenne, qu'il y ait des obstétriciens, des anesthésistes, des pédiatres, et qu'ils soient pérennes pour monter des projets de soins, pour auditer leurs cas. Vous voyez, je rentre un peu dans les détails, mais c'est très important sur la longueur. Mais qu'est-ce qui se passe actuellement depuis une dizaine d'années ? Il y a beaucoup de maternités qui sont en telle difficulté. Alors bien sûr, elles respectent les quotas du plan périnatalité de 1997, mais il y a beaucoup de maternités, pas que des petites, hein, même des maternités assez grosses, qui fonctionne avec des mercenaires, avec des gens qui ne viennent que pour faire la garde. Et donc, il n'y a pas de travail d'équipe, il n'y a pas de projet de soins. On ne regarde jamais ces accidents, on n'essaye pas de corriger les choses. Et donc, on n'a que des mercenaires. Je provoque un peu, hein, mais on ne peut pas faire du bon travail comme ça. Alors oui, la garde est prise, il n'y a pas de problème. Hein, mais si le projet de soins n'est pas suivi par tout le monde, n'est pas partagé, et si on ne revient pas sur les accidents, les complications qu'on a eues pour essayer de corriger les choses, ben on continue à faire du mauvais travail. Ça n'empêche pas que même quand on fait du bon travail, il y aura toujours des accidents, bien entendu.
Je vous ai lu, hein, Sébastien Lorquin, et donc pour tenter de comprendre justement cette anomalie française, on reviendra d'ailleurs sur cette question, pourquoi c'est une spécificité nationale. Je me suis rendu sur le site viepublique.fr et qui est un peu la voix de l'État, j'allais dire, la voix de l'État officielle en matière de diagnostic en matière de santé notamment, mais pas uniquement. Et sur le site, je lis ceci. La hausse de la mortalité infantile s'explique par l'augmentation de l'âge des femmes à la maternité, par la précarité sociale des femmes qui accouchent, par le surpoids chez les femmes enceintes, par la prévalence du tabagisme maternel, par le nombre de femmes qui souhaitent poursuivre leur grossesse en sachant que le fœtus souffre d'une pathologie grave. Fin de citation. Il y avait encore d'autres facteurs, mais à chaque fois le point commun de tous ces facteurs, c'est qu'ils pointent la responsabilité des femmes. Est-ce que là aussi c'est un problème ? Dites-nous.
Complètement. Nous, ça nous a vraiment, pour le coup, ulcéré de lire ça. C'est-à-dire qu'au cours de notre enquête, très rapidement, on s'est rendu compte qu'il y avait un certain nombre de facteurs structurels qu'on a commencé à aborder. La surcharge dans les grandes maternités, les petites maternités qui peinent à assurer la triple permanence.
Je précise, vous êtes choqués qu'on pointe la responsabilité des femmes.
Voilà, c'est ce que j'allais dire. C'est qu'en fait, nous, on s'est très vite rendu compte qu'il y avait un certain nombre de facteurs largement structurels et plutôt liés à l'organisation des soins. Et finalement, là, on a ce site de référence dont vous parlez qui pointe uniquement la responsabilité des femmes. En plus de ça, non seulement ça nous a, sur le principe, ça nous a marqué, mais en plus de ça, les points qui sont évoqués, que ce soit l'obésité l'âge qui recule, la précarité, ce sont des phénomènes qu'on retrouve dans les autres pays européens. En Allemagne, en Italie, en Belgique, ils existent aussi ces facteurs-là, et chez eux, la mortalité infantile baisse. Pourquoi est-ce que chez nous, ils seraient responsables à eux seuls d'une augmentation ?
Vous êtes en phase, Lucie Labiola. Dans le fond, c'est étrange, même dérangeant, j'allais dire, que l'État pointe d'abord et avant tout la responsabilité des femmes, plutôt que de se charger des questions d'organisation des soins ?
Alors, je pense qu'effectivement, il y a des facteurs qui dépendent des femmes, mais de là à dire que c'est de leur faute et que c'est leur responsabilité, c'est un autre pas, à mon sens. Et effectivement, l'organisation des soins et les soins tels que nous on les conçoit en tant que soignants, ça doit prendre en charge toutes les patientes, qu'elles soient tabagiques, obèses, dans la précarité, et nos valeurs de soignants, c'est de s'occuper de toutes ces femmes, et on doit nous donner les moyens de nous occuper convenablement de toutes ces femmes.
François Goffinet, est-ce qu'il y a, par-delà les facteurs qui viennent d'être dépliés, un sujet lié à la santé des femmes également, en lien avec la mortalité infantile ?
Alors, bien sûr, les facteurs de risque que vous avez évoqués existent. Hein. Il y a une association avec la mortinatalité et la mortalité périnatale. Mais effectivement, ils n'expliquent pas du tout les chiffres français. Absolument pas. Vous l'avez très, très bien dit. Il y a un autre facteur qui est peut-être un peu plus important. Et c'est un peu la double peine. C'est ces femmes en grande situation de précarité qui sont souvent d'ailleurs dans des territoires qui sont en grande difficulté sur le plan des structures des maternités. Hein, c'est un peu la double peine. Donc ces femmes n'ont pas accès à un suivi de grossesse correct et puis se retrouvent à accoucher dans des maternités qui ont des gros problèmes de personnel et de surcharge. Et donc ça, c'est un facteur certainement qui est associé, mais qui n'explique pas tout. Hein. C'est beaucoup plus compliqué que ça, bien sûr.
Et je voudrais justement rappeler quelques chiffres avant de vous donner la parole, Sébastien Lorquin. Il faut rappeler évidemment les inégalités territoriales en la matière. Hein. Les taux de mortalité infantile à La Réunion sont de 6,6, 9,5 à Mayotte, 7,5 en Guadeloupe. En Seine-Saint-Denis, c'est supérieur à 5 contre 4,1 dans l'Hexagone en général. Là aussi, quand on observe les disparités géographiques, qu'est-ce que l'on constate en tant que journaliste, Sébastien Lorquin ?
Alors nous, il y a deux départements qui nous ont particulièrement marqués pour des faits différents. C'est-à-dire que quand on regarde le classement des départements qui sont le plus frappés par la mortalité infantile, il y a deux profils complètement différents qui apparaissent. Le premier, c'est le Lot, un département rural qui est à 6,2 pour 1000, et dans lequel, en fait, ce qu'on a constaté, c'est que 3 des 4 maternités du département ont fermé au cours des 15 dernières années. Là, il ne reste plus qu'une seule maternité, à Cahors, donc ce qui a mécaniquement fait augmenter de manière colossale la distance moyenne entre les femmes et la maternité.
Une seule maternité dans le département ?
Dans le département. Et ce qu'on a observé en plus, c'est que ce cas de figure existe dans 9 autres départements en France actuellement. Donc ça, c'est un département qui nous a fortement interpellés parce qu'on s'est posé la question des conséquences qu'avait cet éloignement continu entre les femmes enceintes et les maternités, avec en plus un témoignage fort d'une sage-femme à Cahors qui nous raconte le cas d'une femme qui est arrivée avec une hémorragie, et elle nous dit: chez nous, la distance est une perte de chance. Si cette maman avait habité à 15 ou 20 minutes de la maternité, on aurait pu sauver son bébé. Ça n'a pas été le cas. Et l'autre département dont je voulais vous parler, c'était la Seine-Saint-Denis. Parce que là, ce sont totalement d'autres facteurs qui apparaissent. En Seine-Saint-Denis, il y a 17% de la population qui habite sous le seuil de pauvreté. Et ce qu'on a constaté, c'est que dans les années 90-2000, il y avait un énorme tissu de protection, de prévention, avec la protection maternelle et infantile, les PMI. Et ce qu'on a constaté, c'est qu'en 20 ans, le nombre de consultations, que ce soit pour les mères ou les enfants, a été divisé par deux. Et ça a des conséquences catastrophiques. Avec, là encore, je prends un témoignage de sage-femme, une sage-femme de la PMI de Saint-Denis qui nous dit avant, on pouvait assurer dans notre pays, on pouvait s'en féliciter, un suivi de grossesse, y compris aux femmes les plus précaires. Ouais, elle nous dit, aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Aujourd'hui, on a un filet dont les mailles sont devenues extra larges et on rate des femmes. Nous, cette phrase, elle nous a choqués parce qu'on lui demande, mais rater des femmes, c'est-à-dire ? Eh bien, elle nous dit ce que le docteur Goffinet disait juste avant, c'est-à-dire qu'il y a certaines femmes qui vont arriver, qui vont se présenter en PMI, elles sont enceintes, mais on ne va pas pouvoir dater la grossesse, on ne va pas pouvoir suivre la grossesse avec un suivi qualitatif, et on va finalement se concentrer sur l'urgence, c'est ce que nous dit cette sage-femme, ça va être de lui trouver une place pour accoucher. On en est là aujourd'hui.
À propos du département de la Seine-Saint-Denis, deux témoignages complémentaires.
On reçoit énormément de familles endeuillées dans la période périnatale. Hein, depuis 1999, quand on a ouvert cet accompagnement, on augmente nos partenariats et donc on a de plus en plus de familles qui nous sont orientées. L'accompagnement des familles endeuillées a pour objectif d'éviter, de prévenir les effets délétères de la perte d'un enfant. On accompagne à la fois les parents, mais aussi la fratrie, et on accompagne la grossesse qui suit.
On a un tiers de la population en Seine-Saint-Denis sous le seuil de pauvreté. La pauvreté entraîne des situations aussi de mauvaise qualité de prise en charge, d'une hygiène de vie ou d'accès à la santé. Il serait intéressant pour l'ensemble des familles d'acteurs qui interviennent dans ce domaine d'avoir quelque part une mise à jour de l'ensemble des facteurs. Ça nous aiderait, nous, en Seine-Saint-Denis, à encore plus affiner les réponses que l'on pourra apporter.
Sur le sujet des disparités géographiques, je voudrais revenir un instant avec vous tous sur la question des maternités, parce que c'est une question compliquée. Quelques chiffres d'abord. Pour commencer, 75% des maternités qui jalonnaient le pays ont fermé au cours des 50 dernières années. En 2024, le ministère de la Santé ne recensait plus que 450 maternités en France, contre 1369 en 1975. Je disais que c'est une situation compliquée parce que d'un côté, on pointe les toutes petites maternités. On dit qu'elles deviennent dangereuses parce qu'il n'y a pas assez d'actes qui sont effectués. Et de l'autre côté, on pointe également les très très grandes maternités comme des usines à accouchement. Alors, où est le danger concrètement, Lucie Labiola, je commence avec vous. Où se situe le danger dans les maternités françaises ?
Vous voulez parler des petites maternités ?
Des petites ou dans les grandes, alors, justement, il faut nous expliquer.
Alors, dans les petites maternités, le danger, entre guillemets, c'est que quand il y a un taux d'accouchement qui est trop bas, bien sûr, moins on fait souvent les choses, moins bien on les fait. C'est assez logique. Et souvent, ces petites maternités, c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure, eh bien, ce sont des maternités où il n'y a qu'une sage-femme la nuit, avec des médecins d'astreinte. Souvent, c'est aussi des maternités où ce sont des mercenaires, comme vous disiez, Monsieur Goffinet, qui viennent prendre des gardes. Donc, ça, c'est vraiment lié au manque d'entraînement et au manque de supervision, si je peux dire, des pratiques. Dans les grosses maternités, du coup, nous, on vient absorber, parce que moi, je travaille dans une grosse maternité qui fait presque 4000 accouchements par an, eh bien, on va venir absorber ces accouchements qui ne se font plus dans ces petites maternités-là. Donc, on mélange des grossesses très physiologiques avec des mamans qui sont dans une demande d'accompagnement personnalisé, physiologique, avec des grosses pathologies. Et donc, les sages-femmes ont une suractivité et doivent partager leur activité entre des pathologies de la grossesse, des extrêmes prématurés et des accouchements physiologiques.
Mais lorsqu'on regarde les statistiques, François Goffinet, où se situent les taux de mortalité les plus importants dans les petites, dans les grandes maternités, où ce n'est pas, dans le fond, la variable principale ?
Non, ce n'est pas, c'est malheureusement pas, ça serait simple, puisque à ce moment-là, on pourrait faire des quotas tout simples. Non, je pense que, par exemple, je ne suis pas du tout en phase avec la conclusion de la communauté de médecine qui disait qu'il fallait fermer toutes les maternités de moins de 1000 accouchements. Parce qu'il faut faire ça au cas par cas selon la région. Le problème, c'est qu'on ne pourra
selon
pas...
Selon les besoins des territoires.
Exactement. Mais on ne pourra pas garder toutes les petites maternités. Parce que où est-ce que vous allez trouver... J'ai commencé tout à l'heure en disant que si vous voulez faire de la qualité des soins, pas simplement d'ailleurs diminuer la mortalité, mais même pour l'accueil des femmes et des couples, il faut des gens qui soient là de manière pérenne. Actuellement, ce n'est pas possible de pouvoir avoir ce qu'on appelle la triple permanence des soins, c'est-à-dire des sages-femmes, des obstétriciens, des anesthésistes et des pédiatres dans toutes ces maternités. Ce n'est pas possible d'avoir toutes ces personnes-là dans ces équipes. Il faut comprendre ça. Donc, il va falloir, ça peut pas forcément rationaliser, mais organiser les choses, mettre des nouveaux plans périnatalité pour mettre des règles précises pour la sécurité des soins et pour l'accueil des parturientes, bien sûr. Et puis, il faudra s'adapter en fonction des régions, bien entendu. Mais il faudra que les départements s'impliquent là-dedans, hein, parce que vous parliez de la Seine-Saint-Denis tout à l'heure. J'ai bien connu la Seine-Saint-Denis dans les années 90, où il y avait, je veux pas de politique du tout, mais il y avait un des derniers conseils général communiste, mais qui était très impliqué dans la PMI et dans la protection de sa population. Je ne veux pas critiquer ceux d'actuels, hein, mais en tout cas, nous, on a vu une dégradation de cette PMI en Seine-Saint-Denis, mais de manière extraordinaire. Alors peut-être que c'est une question de moyens maintenant ou de priorité, j'en sais rien, mais on a très bien vu ça. Et la mortalité à l'époque en Seine-Saint-Denis, elle n'était pas du tout élevée comme elle l'était actuellement par rapport aux autres départements.
Lucie Labiola, vous souhaitez réagir ?
Oui, effectivement, je voulais réagir dans le sens où on parle des fermetures des petites maternités, mais il y a aussi des fermetures partielles des maternités quand il manque, mais il y a des lignes de garde et que les lignes de garde ne sont pas prises, il manque un obstétricien, il manque un pédiatre et du coup la triple, comme vous disiez, permanence des soins n'est pas assurée et il y a des fermetures partielles. Nous, dans le groupement hospitalier 49, on a essayé de réfléchir à une organisation des soins globale, c'est-à-dire qu'il y a des gynécologues de chez nous qui viennent assurer les gardes manquantes, donc c'est des gynécologues d'une grosse maternité qui vont prendre des gardes dans les plus petites maternités pour assurer la permanence des soins, ce qui permet en plus de faire un peu de supervision et d'essayer d'apporter des pratiques adaptées. Et au sein de notre GHT, on n'est pas trop impacté parce que justement, on essaye d'avoir des temps partagés et chacun y met du sien pour pallier à ce manque de personnel.
Et je rappelle que vous exercez dans le Maine-et-Loire au CHU d'Angers, plus exactement. Vous souhaitiez également réagir, Sébastien Lorquin.
Oui, je voulais juste rebondir sur les fermetures partielles parce que nous, c'est quelque chose qui nous a vraiment marqué. Je vous parlais tout à l'heure du Lot. Eh bien, il faut savoir que la maternité de Cahors, qui est donc la seule du département du Lot, a connu une fermeture temporaire à l'été 2023. Donc pendant un long week-end, faute de pédiatre, puisqu'en fait, il n'y avait pas pas de pédiatre pour assurer la garde, la maternité a été fermée temporairement. Et ça me fait réagir aussi à ce que disait le docteur Goffinet, c'est que est-ce qu'il n'est pas temps aussi de sortir de la logique des seuils, puisque vous vous rappeliez que l'Académie de médecine avait sorti un rapport qui préconise de fermer les maternités qui font moins de 1000 naissances. Là, on retombe sur le, encore une fois sur le cas de Cahors. C'est la seule maternité du département, elle fait aujourd'hui 600 naissances. Est-ce que ça veut dire qu'on doit donc à l'avenir fermer cette maternité-là? Est-ce qu'il va y avoir des départements dans lesquels on ne pourra plus naître? C'est une question aussi qu'il faut poser, puisque si on suit cette logique-là, on va arriver à ce type de raisonnement et de réponse.
J'en reviens, François Goffinet, à une question cruciale, à une question mystère a priori également. Qu'est-ce qui fait, encore une fois, la singularité française? Si je prends les disparités géographiques, si je prends les maternités que l'on ferme, si je prends aussi la question peut-être de l'attractivité, on en parlera, hein, des métiers différents autour de la périnatalité, mais notamment du métier de sage-femme, c'est pas une singularité française, tous ces problèmes-là, tous ces problèmes combinés ici?
Non, bien sûr. Je ne vais pas pouvoir vous donner une réponse pour vous expliquer exactement pourquoi, chez nous, c'est aussi différent que dans d'autres pays. Je suis obligé un tout petit peu de rentrer dans des concepts. Il faut que faut comprendre que la mortalité infantile, et donc la mortalité natale, la grande majorité vient de naissances prématurées. Donc déjà, vous voyez, si le but ici, c'est pas simplement de parler de proximité, d'accueil des patientes, etc., mais si c'est de parler de ce chiffre de mortalité infantile, il va falloir s'occuper de la prématurité. Donc certainement que les moyens qu'il va falloir mettre en place pour la prématurité vont être différents de toutes les grossesses à terme, dites à bas risque, hein, où il y a également un excès, hein, de mortalité néonatale, hein, les deux. Donc ça veut dire que c'est des moyens qui vont être certainement différents. Par exemple, on pense que pour la prématurité, pour améliorer la prise en charge de la prématurité, on n'est pas assez bien rationalisé sur le plan des lits de néonates en France. On a beaucoup de retard, encore une fois, parce qu'il n'y a pas eu de plan, hein. On a fait des grosses avancées dans les années 90, on était très bien organisé dans les années 90, et puis maintenant, on a laissé les professionnels et les directeurs d'hôpitaux faire leur job, mais sans trop les accompagner.
Mais ça aussi, c'est une spécificité française. Je rappelle quand même ce chiffre, hein, 23e place sur 27 dans les États membres. Il y a bien quand même quelque chose qui dysfonctionne dans le système français.
Oui, moi je pense que les maternités dysfonctionnent, pas toutes, bien sûr, mais il y a des territoires où ça dysfonctionne de manière importante, j'ai pas de preuves, hein. C'est mon analyse, hein. Il y a un autre petit, mais peut-être que ça dépasse un peu le cadre là de l'émission et ça complexifie, hein, les choses, mais en France on a une particularité sur ce qu'on appelle l'extrême prématurité. C'est que les enfants qui naissent aux alentours de 5 mois de grossesse, dans d'autres pays, on fait tout pour ces enfants. On essaye de prendre en charge ses enfants. Et en France, on n'a pas cette culture de prendre en charge ses enfants. Donc, ça compte. Ça n'explique pas complètement la mortalité néonatale, hein. Mais en tout cas, la survie de ces enfants, alors là, n'a strictement rien à voir avec nos pays voisins, en particulier les pays scandinaves. Donc, c'est une des. Il y a beaucoup de choses qui expliquent,
hein. Sébastien Lorquin, des éléments complémentaires de réponse pour tenter là aussi de comprendre cette singularité française?
Ce qui explique aussi l'absence de compréhension précise de ce qui se passe, c'est qu'en fait, en France, il nous manque un outil essentiel. C'est un véritable tableau de bord. Ce sont les registres de naissance. C'est un outil qui est à la croisée des statistiques et des données épidémiologiques qui existent dans un certain nombre de pays nordiques et qui permet en fait autour de l'accouchement de relever une multitude de données autour de la mère, du père, de l'enfant, du mode d'accouchement, du lieu d'accouchement. Et finalement, ce que font les chercheurs dans ces pays-là, c'est qu'ils peuvent croiser une multitude de données et comprendre où et comment la situation se détériore d'une année sur l'autre. Nous, en France, il faut savoir qu'on n'a pas cet outil-là. Donc, l'une des priorités, ça peut peut-être aussi être celle-là.
Pourquoi est-ce qu'on l'a pas? Comment est-ce qu'on l'explique? C'est un refus, là aussi, des autorités publiques, de l'administration sanitaire, c'est compliqué à mettre en œuvre?
On a sollicité deux chercheurs de l'INSERM qui sont spécialistes sur cette question-là, Jennifer Zetlin et Pierre-Yves Ancel, et ils expliquent que ça a été, à un moment donné, un choix politique et budgétaire de ne pas mettre en place ces bases de données-là. C'est peut-être intéressant de reconsidérer cette base aujourd'hui, parce que on parle très souvent de big data, d'intelligence artificielle, etc. Est-ce qu'en matière de périnatalité, on ne devrait pas justement commencer par là pour se doter d'un outil à la pointe pour comprendre ce qui se passe? Et à ce moment-là, on mettrait en fait finalement dans les mains des décideurs et de peut-être du ministère de la Santé un certain nombre de leviers sur lesquels ils pourraient agir.
Je vous repose la même question avec d'autres mots, Lucie Labiola. Comment ça se fait qu'on ne comprenne pas, là encore? C'est frappant. Trois spécialistes autour de la table, on a du mal à comprendre ce qui fait la singularité, le dysfonctionnement français en matière de mortalité infantile.
Vous me posez une colle, j'ai pas de réponse. Je pense que notre organisation des soins, elle est quand même assez particulière en France. Hein. 96% des accouchements se font à l'hôpital, enfin en milieu hospitalier, ce qui est difficilement comparable avec d'autres pays où des accouchements se font dans des maisons de naissance ou à domicile, mais avec une autre offre de soins, notamment en termes de transport, pour transporter les patientes vers les structures adaptées. Donc je pense que le sujet est extrêmement complexe et je n'aurai pas de réponse à vous donner ce soir, malheureusement.
François Goffinet a parlé d'un plan national qui tarde, hein, le dernier date de plusieurs décennies là aussi. On a entendu le registre des naissances qu'il faudrait mettre en œuvre selon Sébastien Lorquin. Selon vous, Lucille Abiola, qu'est-ce qu'il faudrait mettre en place d'une manière rapide, urgente même ?
Qu'est-ce qu'il faudrait mettre en place de manière urgente ? Il faudrait... Je ne sais pas.
Je vous reposerai la question dans 5 minutes. Oui. Alors du coup,
je vous laisse réfléchir.
François Goffinet, je reviens sur la question de l'accompagnement des parents qui ont perdu leur très très jeune enfant. Comment se passe-t-il concrètement cet accompagnement en milieu hospitalier ou au sein d'une maternité ? Comment est-ce que vous l'organisez vous-même au jour le jour ?
Alors bien sûr, je vais revenir un peu sur ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il y a des maternités qui sont bien organisées, qui ont des moyens et qui sont arrivées à mettre en place des prises en charge pour ces parents et puis surtout pour les prendre en charge aussi après. Parce que la mère, elle va partir de la maternité. Il faut pas la laisser dans la nature comme ça. Donc oui, il y a des équipes de psychologues, il y a des équipes au sein du réseau pour pouvoir essayer d'aider ces parents qui sont dans une situation de deuil périnatal. Oui, bien sûr. Normalement, c'est prévu et c'est ce qui est demandé aux maternités. Mais toutes les maternités ne sont pas organisées pour pouvoir le faire.
Parlez-nous, Sébastien Lorquin, des parents que vous avez rencontrés au cours de votre enquête.
Moi, je voulais juste rebondir d'abord sur le fait que on donne la parole dans notre livre à Anne Brousseau, qui est psychiatre et spécialiste du deuil périnatal, et elle regrette qu'aujourd'hui il n'y ait pas de solution uniforme qui soit proposée aux parents, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'outils systématiques sur tout le territoire. Il y a une offre disparate et en fait les parents vont être tributaires de ce qu'ils vont trouver autour de chez eux quand ils vivent un drame de la sorte. Donc là, il faut bien comprendre qu'on est vraiment dans quelque chose qui est bouleversant, parce qu'on a des parents qui non seulement vont perdre leur enfant et qui, en fonction de là où ils vivent, vont peut-être pouvoir ou non être accompagnés.
Même dans le deuil, les parents ne sont pas égaux.
Voilà, c'est ça.
Et si je reviens sur ces parents que vous avez rencontrés justement au cours de cette enquête, comment vous avez vous-même accueilli leurs paroles ? Comment vous avez perçu la façon dont certains étaient accompagnés ?
Ce qui était important pour nous, c'était vraiment de recueillir leurs paroles pour mettre des mots sur ce qu'ils ont vécu. On a vraiment essayé de le faire de manière pudique et en étant vraiment avec douceur à leur côté pour essayer de recueillir leur témoignage. Parce que ce qu'on voulait, c'était vraiment qu'ils contribuent aussi finalement à montrer ce qu'ils ont vécu et à montrer aux parents qui vivent la même chose qu'eux qu'ils ne sont pas seuls et qu'il existe un chemin du deuil périnatal. Mais aussi, on a voulu mettre des mots dessus pour que si ce livre venait à être lu par des responsables politiques notamment, ils puissent comprendre ce que vivent ces familles et pourquoi il est vraiment primordial de prendre aujourd'hui le sujet de la mortalité infantile à bras-le-corps.
Lucille Abiola, c'est le cœur de votre thèse, de vos travaux aussi, hein, l'accompagnement de ces parents qui traversent un tel drame. Qu'est-ce que, là aussi, vous observez dans ces travaux ? Qu'est-ce que vous observez même dans votre travail quotidien, pratique ?
Alors, il y a quelques années, sur le CHU d'Angers, on a essayé de faire un travail de recherche auprès de ces patientes, parce que malheureusement, elles sont souvent sous-représentées dans les travaux de recherche, dans un travail de recherche où on les rappelait systématiquement pour voir leur bien-être et ce dont elles auraient eu besoin, ce qui nous a permis ensuite, ce travail a été publié, ce qui nous a permis ensuite de modifier nos pratiques. Et depuis, dans notre équipe de psychiatrie périnatale, on a vraiment un axe sur l'accompagnement du deuil périnatal, où les sages-femmes sont en première ligne. C'est ce que je disais tout à l'heure, on rappelle tous les parents endeuillés de manière systématique que l'enfant soit décédé in utero ou dans le postpartum immédiat.
Vous les rappelez, c'est-à-dire vous les rappelez dans le temps, vous les rappelez plusieurs fois ?
Plusieurs fois, on les rappelle souvent au bout d'une semaine pour savoir déjà comment ça se passe à la maison, est-ce qu'ils ont rencontré des difficultés dans l'administratif, sur le devenir du corps, sur l'organisation des obsèques, sur des choses vraiment même physiques, est-ce qu'elles ont eu une montée de lait, est-ce qu'elles ont eu des soucis, est-ce qu'elles ont mal au ventre, enfin des choses vraiment pratiques de sage-femme. Et on les rappelle au bout de 15 jours, au bout d'un mois, et on les redirige. En fait, ça permet de garder le lien avec elles, leur apporter une forme de sollicitude, de soutien. Et en fait, le moindre grain de sable pour ces femmes, c'est source d'injustice. C'est-à-dire, par exemple, avoir des difficultés à avoir un rendez-vous avec un gynécologue derrière pour faire le point sur ce qui s'est passé. Le fait de ne pas réussir à savoir qui appeler, c'est un grain de sable qui peut rendre vraiment la situation encore plus injuste. Donc nous, on essaye de faciliter toutes ces prises en charge-là et on les redirige vers des psychiatres, des psychologues avec qui on travaille, si elles en ont besoin en plus.
Sébastien Lorquin, vous souhaitez réagir ?
Oui, il y a aussi un certain nombre de choses très intéressantes qui ont été mises en place. Il existe aussi aujourd'hui des boîtes de souvenirs. On propose aux parents de faire des traces.
Peut-être... Oui, et oui, effectivement, on leur propose, nous, systématiquement, hein, des traces, donc des photos, des empreintes. Des photographes peuvent venir s'ils souhaitent que des photographes viennent. Ils peuvent revoir leur bébé à la chambre mortuaire plusieurs fois s'ils le souhaitent. Enfin, on a vraiment essayé d'amener une attention particulière à ces parents. Et le fait que ce soit des sages-femmes, ça leur montre aussi que c'est une forme de maternité qui n'a pas abouti à un enfant vivant, mais c'est une forme de maternité.
Est-ce que c'est un deuil comme les autres ? Je veux dire, par là, le temps de vie a été extrêmement court, la rencontre a été aussi souvent abrupte. Est-ce qu'on organise ce deuil comme on organise un autre deuil ?
Eh bien, en termes vraiment pratico-pratiques, on peut l'organiser en France comme un autre deuil, c'est-à-dire qu'on peut organiser des obsèques à partir de 3 mois un enfant qui naît à 3 mois de grossesse, on peut organiser des obsèques. On peut aussi déclarer cet enfant, il a une trace dans la société et donc c'est un deuil qui est différent dans le sens où il n'y a pas vraiment de création de souvenirs, mais nous on essaye justement de leur amener, de leur montrer l'expérience de l'accouchement qu'elles ont vécu quand même, l'expérience de la relation avec les soignants qu'elles ont vécu. Et on se rend compte qu'en se basant sur ça, sur ces expériences positives malgré le deuil et la perte, eh bien, au fur et à mesure, les choses vont pouvoir se reconstruire.
François Goffinet, que fait-on quand le décès de l'enfant est le fruit d'une erreur médicale, ou en tout cas d'une erreur qui s'est déroulée dans le cadre hospitalier, dans le cadre de la maternité ? Là aussi, comment accompagner des parents ?
La première chose, je pense que les choses ont évolué quand même en médecine, c'est qu'on ne cache rien aux parents. Il faut absolument...
On sait que ce n'est pas toujours le cas, par
ailleurs. Oui, bien entendu, oui, bien sûr. Il ne faut rien cacher aux parents. Il faut voir les parents assez rapidement. Il faut, entre guillemets, on est sur le plan médical, là, débriefer sur le plan médical assez rapidement, même si on est encore dans la période de sidération du deuil, on le comprend bien. Et donc, il va y avoir plusieurs moments. Il y aura le moment immédiat pour montrer aux parents qu'on ne cache rien et qu'on essaye d'expliquer les choses. Parce que derrière le mot erreur médicale, il y a beaucoup de choses en fait. Et puis après, il faudra que ses parents soient revus, bien entendu, même plusieurs fois, et pas du tout dans une consultation médicale. Moi, comme responsable de service, ça m'arrive souvent de comme on est une très grosse maternité, il y a 50 morts in utero par an. Donc voilà, et il y a des mortalités néonatales, il y en a encore plus. Donc obligatoirement, des parents, j'en vois assez fréquemment, et de temps en temps, effectivement, il y a eu une prise en charge qui n'était pas optimale. Voilà. Et donc, il faut leur dire, oui, on aurait peut-être pu faire autrement, là, oui, peut-être qu'effectivement, là, l'équipe aurait dû, voilà. Il ne faut rien cacher, parce que les parents le sentent très, très bien, quand on cache les choses,
Je rappelle que vous travaillez à la maternité Port-Royal. Vous souhaitiez là encore réagir, Sébastien Lorquin?
Oui, parce que vous avez posé la question, est-ce que le deuil périnatal est particulier, en tout cas, le deuil après la mort d'un enfant né vivant et périnatal, mais on peut aussi le considérer de la même manière. C'est-à-dire que, nous, ce qu'on a observé au cours de notre enquête, c'est qu'il est vital pour les parents qui ont vécu ce type de drame, qu'on considère leur enfant. Parce que souvent, en fait, comme le docteur Goffinet disait, un grand nombre de ces enfants meurent à la maternité. C'est-à-dire qu'en fait, les parents sont les seuls à avoir connu leur enfant. C'est-à-dire que même pour leur entourage, quelque part, cet enfant n'a pas eu de véritable existence. Et ça, c'est vraiment quelque chose sur lequel il faut insister, c'est que il faut, si on connaît tous autour de nous des personnes qui ont vécu ce type de situation, avoir dans les moments comme Noël, un anniversaire, une pensée pour leur enfant, c'est essentiel.
Lucie Labiola, je vous avais promis de revenir à la charge sur une idée, une mesure pour tenter d'améliorer cette situation nationalement dramatique. Est-ce que vous avez pu trouver une idée ?
Mais la première idée qui me vient, c'est qu'il faut vraiment qu'il y ait une prise de conscience de nos politiques, de ce problème. Il faut vraiment qu'on se mette autour de la table pour en discuter. Ça devient vraiment urgent, je pense.
Et ce livre et vos analyses y participent. Merci beaucoup à tous les trois de cette discussion. Merci. Sébastien Lorquin, je rappelle que vous êtes journaliste d'investigation et le co-auteur avec Anthony Cortès de cet ouvrage intitulé 4,1, le scandale des accouchements en France. C'est chez Buchet Chastel. François Goffinet, vous êtes docteur, vous êtes gynécologue obstétricien, chercheur en épidémiologie périnatale, le chef de service à la maternité Port-Royal. Lucie Labiola, sage-femme clinicienne, vous êtes en psychiatrie périnatale au CHU d'Angers, doctorante en éthique. Vous travaillez sur le vécu des femmes de la naissance, sur le consentement, sur la relation dans le soin. Merci beaucoup à tous les trois.